C'est bon. Bon matin, tout le monde. Vraiment content d'être avec vous. C'est un vrai privilège. Je me sens un petit peu perdu parce que d'habitude, je suis dans une église à peu près grande comme ça, là. Fait que je demande pardon d'avance aux rangées droite et gauche si je vous regarde passer. J'ai l'habitude d'avoir tout le monde d'un seul regard. Donc, c'est ça, comme Yannick dit, je suis un des pasteurs implanteurs à l'Église Connexion, une petite église, petite ville, mais avec un grand rêve, et on a vraiment à cœur d'être une église très impliquée dans la communauté. Et pour nous, en tant qu'église, c'est une des façons, pas juste d'atteindre notre communauté, mais l'implication dans la communauté, je crois que c'est la meilleure plateforme dans laquelle on forme des disciples. Et donc, je vais venir vous parler un petit peu de la formation de disciples ce matin. C'est un sujet que probablement vous entendez parler souvent. Je pense pas apporter quelque chose de vraiment nouveau, surtout si vous fréquentez l'Église depuis un bout de temps, vous étudiez la Bible. C'est un sujet que vous avez entendu parler. Peut-être quand on dit formation de disciples, bon, il y a différentes images qui nous popent dans la tête. Certains se disent, ouais, ça c'est quelque chose qui est pour les autres. J'ai écouté le message de Yannick qui parlait des obstacles et j'ai trouvé très intéressant. Mais peut-être juste faire un rappel. Puis rafraîchir certaines idées par rapport à ça. Je pense pas qu'il y a une seule bonne manière de vivre la formation de disciples. Je pense pas qu'il y a une seule bonne façon de le faire. Et donc, je vais vous partager qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur. Je vous cacherai pas que ça a été assez difficile de choisir quoi dire et quoi pas dire en un seul message. Il y a tout l'aspect de la théologie, qu'est-ce que la Bible nous dit sur la formation de disciples. J'aimerais avoir un aspect aussi assez pratique. Et donc, c'est ça. Peut-être juste commencer par vous partager mon expérience dans la formation de disciples. J'ai 35 ans, mais j'ai eu le privilège de devenir disciple de Jésus quand j'avais 20 ans, quoique j'ai grandi dans une famille chrétienne. Puis tout de suite, pour moi, devenir disciple de Jésus, c'était tout de suite de m'impliquer avec les autres personnes dans mon église, les jeunes, etc. Puis une des choses que j'ai commencé à faire, c'était de la formation de disciples, parce que j'aimais parler, puis ils m'ont placé là. Donc j'ai eu le privilège de faire beaucoup, beaucoup de suivi de disciples, là, préparation, baptême, ces choses-là. Puis une des choses, peut-être traditionnellement, quand on pense à la formation de disciples, tu sais, on a tendance à voir ça comme quelqu'un qui est plus vieux dans la foi, qui va prendre quelqu'un qui est plus jeune dans la foi et va lui enseigner à être un plus vieux dans la foi. À peu près, hein? Donc, tu prends quelqu'un qui est à peu près un petit peu plus loin que toi, là, tu sais, puis tu vas l'enseigner à être un peu plus comme toi dans la foi. Puis, il y avait quelque chose qui m'a toujours agacé avec ça, puis avec l'expérience, c'est que ça crée ce genre de relation-là, de, tu sais, t'as le professeur, puis t'as l'élève. Et un qui est supposé être arrivé à quelque part, puis l'autre qui est pas encore arrivé, puis là, je vais te montrer. Et souvent, comment que ça se vivait, c'était sous forme de cours, donc des cours bibliques, etc., où est-ce qu'on transfère de la connaissance. Donc, c'était souvent axé sur la connaissance, avoir une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est la vie chrétienne, les différents enseignements de base de Jésus, etc. Mais c'était quand même très axé sur la connaissance, puis axé sur l'activité du disciple. Donc, qu'est-ce qu'un chrétien fait? Et là, un chrétien, il va à l'église, un chrétien, il lit sa Bible, un chrétien, il prie, un chrétien, il parle de Jésus, puis un chrétien, il fait des disciples. Alors là, souvent, quand je faisais mon suivi... à un moment donné, j'arrivais puis je disais aux gens, oui, Jésus t'appelle à faire des disciples, tu sais, un peu comme je suis en train de faire avec toi, tu vas devoir le faire avec quelqu'un d'autre. Et je pense qu'à 100% des fois, quand j'ai dit ça à mon disciple, vous savez qu'est-ce qu'il me répondait? Vous l'avez peut-être même déjà répondu, peut-être même vous êtes déjà fait dire ça. Non, moi, je peux pas faire qu'est-ce que tu fais. Je peux pas faire ça. Moi, je suis pas bon pour enseigner. Je connais pas beaucoup de versets. Je suis pas bon dans la parole. Il me semble que les rencontres vont être plates. Puis pauvre gars qui va me pogner, tu sais, que je vais être obligé de le former comme disciple. Il est bien mieux avec toi, tu sais. Puis ça m'agaçait cette idée-là que moi je le faisais. Puis je pense que je suis un enseignant, donc ça j'aimais ça. Puis je prenais plaisir à ça. Mais de dire que chaque personne qui sont des disciples devront faire la même chose que moi je suis en train de faire, c'est-à-dire s'asseoir avec quelqu'un d'autre, un à un, puis lui enseigner un cours biblique, du genre maître et son disciple ou autre, je me disais, non, ça marche pas. Surtout que moi, je habite à Plessisville, le genre de monde qui sont là, c'est pas, c'est des fermiers, c'est des gars ou des femmes manuels, des personnes de service, pas pour rien qu'on a créé J'aime mon voisin, parce que on pouvait pas créer des dîners philosophiques là, puis combattre l'athéisme et la théorie de l'évolution, c'est pas ça. Nous autres, c'est des manuels, c'est du monde de service. Fait que c'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne avec nos dons, puis c'est du monde de terrain. Puis là, quand on arrive avec la formation de disciples, on est comme en train de leur dire, là, il va falloir que tu oublies ça, puis que tu t'assoies, puis que tu commences à lire des livres, puis que tu dises aux autres de lire des livres. Puis là c'est que ça fait peur aux gens. Fait que, avec le temps, tu sais, j'ai commencé à réfléchir à ça, puis à me dire, c'est-tu la seule façon de faire? Tu sais, je trouvais ça peu accessible comme façon de faire. Je réalisais que souvent, les gens, quand je terminais le processus de formation de disciples avec eux, eux-mêmes n'entreprenaient pas de formation de disciples avec quelqu'un d'autre. J'ai vu ça peu souvent, sauf des gens qui avaient vraiment une facilité avec la parole. Donc, eux, ils se disaient, ben moi, je participe pas à la formation de disciples, je suis pas appelé à ça, j'ai pas ces dons-là. Ça, c'est quelque chose qui m'attristait. Puis, je pense pas que c'était eux qui étaient nécessairement responsables de ça, mais peut-être la vision qu'on leur donnait de qu'est-ce que c'est la formation de disciples. Une autre des choses, c'est que je voyais aussi peu de croissance réelle dans cette façon-là de faire. En fait, c'est comme ça peut... Puis je suis pas en train de dire que c'est mauvais, là. J'ai vu vraiment des dieux faire des grandes choses à travers les cours bibliques, là. Puis faisons-en le plus qu'on peut, là. J'ai aucun problème avec tout ça, là. Mais il y a comme une réalité que si c'est tout ce que tu fais, ça peut créer une croissance artificielle. C'est-à-dire pendant qu'on a des rencontres à chaque semaine ou aux deux semaines, puis que là, tu es redevable sur lire la Bible, prier, puis les activités d'un disciple, ben ça donne une impression que le disciple est en train de grandir. Aussitôt que tu arrêtes les rencontres, oups, il retombe un peu dans ses vieilles bottines. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Je l'ai vu, puis je l'ai vécu souvent. Et c'est ça. Je me suis dit, non, je pense pas que c'est comme ça que Jésus faisait vraiment. Tu sais, il n'y avait pas de cours biblique de cette façon-là, un à un. C'était pas mal comme alors qu'il vivait sa vie, il a formé ses disciples. Donc, j'ai commencé à lire sur le sujet, puis à essayer des approches qui étaient plus moins intellectuelles. Puis peut-être c'est ça que je vais vouloir vous partager aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais juste ça vous lire un passage. Puis, en fait, on va essayer de répondre à trois questions ce matin qui sont, je pense, importantes. Qu'est-ce que c'est un disciple? Si on veut former des disciples, il faut savoir qu'est-ce que c'est un disciple. Quel genre de disciple on veut former? Donc, qu'est-ce que c'est un disciple mature? Et ensuite, comment le faire? Puis, je vais essayer de garder du temps pour avoir, à la fin, donner du concret. Fait que si vous voulez tourner avec moi, sinon je vais vous faire la lecture biblique. Ça va être dans l'Évangile de Jean, principalement dans Jean chapitre 8, mais je vais commencer avec Jean chapitre 15, verset 16. Puis ensuite, je vais lire le chapitre 8, verset 30 à 36, dans l'Évangile de Jean. Et donc, Jean 15, verset 16, Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Dans Jean chapitre 8, verset 30 à 36, il nous dit, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libres. » Et donc, bon, il y a beaucoup d'éléments dans ce qu'on a lu, peut-être même certains éléments un petit peu plus difficiles à saisir. J'aurais pas le temps de vraiment approfondir le texte avec vous, mais on va définitivement essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre sur qu'est-ce que c'est un disciple, sur la formation de disciples et comment appliquer ça à nos vies. puis à nos situations. Mais déjà, une chose qu'on voit dans le ministère de Jésus, encore ici, des gens qui sont là, qui disent qu'ils croient en lui. On l'a vu la même chose un petit peu plus tôt dans l'évangile de Jean. Il y a des gens qui étaient là, puis qui disaient qu'ils croyaient en lui, puis ça disait Jésus ne leur faisait pas confiance. C'est comme un peu chien, hein, ça. T'sais, les gens, ils arrivent, puis ils disent, hey, moi, je crois en Jésus. Puis Jésus dit, non, moi, je te fais pas confiance. Ils voyaient dans leur cœur, puis ils voyaient qu'ils étaient là juste pour le show. Il était là juste pour les miracles. Il était là juste pour wow, tu sais, les confettis puis les choses extraordinaires. Mais dans le cœur, il n'y avait pas eu cette démarche-là profonde de foi à vouloir suivre Jésus. Puis ici, c'est comme un peu la même chose. Et Jésus n'était pas intéressé d'avoir n'importe quel disciple. Et donc, c'est pas tous ceux qui venaient à Jésus pour dire, Jésus, je vais être ton disciple, que Jésus disait, embarque, let's go. Jésus était assez sélectif dans ses disciples. Et donc, qu'est-ce que c'est un disciple? Je sais que vous avez eu une belle définition là la semaine passée que j'ai vraiment appréciée de la formation de disciples, mais juste vous donner une définition que je pense assez simple de qu'est-ce que c'est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui vit avec son maître et qui poursuit sa mission. Règle générale, un disciple, c'est quelqu'un qui vit avec son maître et qui poursuit sa mission. Donc, qu'est-ce que c'est un disciple? Juste le mot disciple. Si on va voir dans le dictionnaire Larousse, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la définition. C'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui fait partie de son école, un élève. Je sais pas, êtes-vous capable de me donner des synonymes de disciple? Peut-être des mots plus actuels. C'est pas quelque chose qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, là. Je suis un disciple d'un tel. Un apprenti. Hey, c'est bon, ça, t'es dans le domaine de la construction, toi, hein? D'autres synonymes de disciple. Un élève, c'est bon. Un étudiant. Pardon? Un imitateur, oui, c'est très bien ça. Un messager. Un écuyer, oh, c'est poétique. Mais j'aime beaucoup ce terme-là que Jérémie a dit, un apprenti. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit autour de nous. Tu sais, le peintre qui est le compagnon qui sait comment s'y prendre, puis là, il prend un apprenti, puis il va lui montrer les ficelles du métier. Et un apprenti, c'est quoi? Par définition, c'est quelqu'un qui apprend. Un apprenti, c'est quelqu'un qui apprend de quelqu'un d'autre. Et donc, juste de voir l'exemple de Jésus avec ses disciples, quand il a appelé lui-même ses disciples, OK? Dans Marc 1, verset 16 à 20, il dit, « Comme il marchait le long du lac de Galilée, c'est ses premiers disciples. Il vit Simon et André, frères de Simon, si on parle de Simon-Pierre ici, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et donc, on voit l'invitation ici. Il va voir deux pêcheurs. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il continue, il va un peu plus loin, puis là, il voit Jacques, qui est fameux dans le trio Pierre-Jean-Jacques. Ils sont là, les trois. C'est de là que ça vient. Fils de Zébédée et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque, puis ils réparaient les filets. Et là, il va les voir, puis il leur fait cet appel-là. Il les appela et il leur dit. Et ils le suivirent. Il les a appelés, puis ils l'ont suivi. Ils ont laissé leur barque-là. L'invitation de Jésus à être disciple, c'est quelqu'un qui vit avec son maître. « Suivez-moi, soyez avec moi, venez avec moi. » Puis l'objectif, je vais vous faire pêcheur d'hommes. Je vais réorienter ta vie complètement. Je vais te donner une nouvelle identité. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Je ne vais pas juste t'apprendre à pêcher, mais tu vas être un pêcheur d'hommes. Et donc, la définition d'un disciple, c'est quelqu'un qui vit avec son maître et qui poursuit sa mission. Et donc, si on est disciple de Jésus, qu'est-ce que ça nous dit de Jésus? Si tu es un disciple de Jésus, qu'est-ce que ça te dit de qui est Jésus? Jésus est le maître. Et donc, Jésus, en tant que maître, il est celui qu'on suit. Il est celui que tu veux être avec lui. Il est ton modèle. Il est celui qui connaît la chose. Il est celui qui a l'expertise. Il a les techniques. Tu veux y ressembler plus que tout. C'est ça, un disciple. Et donc, tu veux être avec lui. Et donc, attention que l'objectif de la formation de disciple et d'un disciple, c'est jamais la connaissance. Oui, ça passe par la connaissance. Il faut que ça commence toujours par une certaine connaissance. Mais la connaissance, c'est jamais la fin en soi. une personne qui veut savoir des choses sur la Bible. Hein, tu sais, vous avez déjà entendu la blague sur les baptistes, la trinité des baptistes? Dieu le Père, le Fils, puis la Bible. Vous avez jamais entendu ça? OK. Pas si drôle que ça, là, vous faites bien de pas rire. Mais tu sais, en bon baptiste, on aime la Bible, tu sais, puis on est des étudiants de la Bible. Puis moi, je viens d'une église, tu sais, où est-ce que on aime la Bible, puis on veut des messages remplis de Bible. Puis, mais c'est facile de devenir tellement des étudiants de la Bible que on n'est plus des disciples de Jésus, mais on devient des étudiants théoriques de ce livre-là. Et c'est pas ça l'appel de Jésus. L'objectif d'un disciple n'est pas la connaissance, mais la ressemblance. Et il y a un rabbin juif, nous les rabbins, on sait ces choses-là, mais Ray Vanderlaan, qui a dit, c'est intéressant de voir la pensée d'un juif, d'un rabbin juif, sur le qu'est-ce que c'est un disciple. Un disciple veut, par-dessus tout au monde, être ce que le maître est. Et donc, ça veut dire tu veux être comme lui. Dans tous les aspects de ta vie, tu veux être comme lui. Et donc, on n'est pas disciple seulement le dimanche ou quand on est en train de faire une activité chrétienne, lire la Bible, prier, témoigner, etc. Mais être un disciple, c'est quelque chose de tous les jours, de tous les instants. C'est carrément une identité. C'est ce que tu es. Et donc, c'est pour ça que tu fais les choses. Donc, un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit avec son maître et qui poursuit sa mission. Regardez dans Jean 15 que j'ai lu tout à l'heure. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. On parle encore ici l'idée de l'appel de devenir disciple. Mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. Et ici, là, quand Jésus acceptait quelqu'un comme disciple, comme n'importe quel maître de ce temps-là, tu allais voir un maître, c'est parce que tu l'estimais, il y avait tous les docteurs, tous les maîtres, tous les enseignants bibliques, t'avais beaucoup de choix, là. Et là, t'en choisissais un que tu trouvais qui était le top, puis t'allais le voir, puis là, quand il acceptait de te choisir comme disciple, il y avait comme un honneur là-dedans. Et là, ça venait avec une responsabilité. Parce que si tu viens d'être choisi par le maître, à quelque part, ça te dit, là, t'as une responsabilité maintenant. T'as une responsabilité d'apprendre, de faire tes devoirs, etc. Vous me connaissez pas réellement si vous ne savez pas que j'aime les films de kung-fu, OK? Fait que là, vous savez quelque chose de très personnel sur moi. Mes proches savent ça. Je suis un fan de kung-fu. J'en fais pas, mais j'aimerais ça en faire. Mais bon, faut qu'on aille avec ce qu'on a. Mais j'aime beaucoup les films de kung-fu, puis je suis en train de faire découvrir ça à mes enfants. Dernièrement, je leur faisais découvrir le vieux film Karate Kid. Pas la nouvelle version, qui est très bonne aussi, mais le vieux avec Monsieur Miyagi puis Daniel San. Vous avez vu ça? Puis c'est très, 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 très bon. Et de voir le cœur de Miyagi, puis je vois comme un aspect de Jésus dans ce personnage-là, tu sais, qui prend vraiment à cœur Daniel San, puis qui lui fait confiance. Il prend sous son aile, il l'amène chez eux. Mais il dit, Daniel, si je te prends comme disciple, il y a une chose. Tu vas faire qu'est-ce que je te dis, sans discuter. Même si tu comprends pas ce que je te demande. Puis là, il commence à faire laver des voitures, puis peinturer des clôtures. Puis là, Daniel San, il comprend pas qu'est-ce qu'il fait jusqu'à ce qu'à un moment donné, il découvre qu'il a appris le karaté. En tout cas, c'est super le fun, je vous le recommande. Mais une chose là-dedans, c'est que quand Daniel San, il peinture des clôtures, pourquoi qu'il fait ça? Pour être le disciple de Miyagi? Pour gagner sa faveur? Pour qu'à la fin, s'il a réussi à tout peinturer les clôtures, puis à tout lustrer et frotter les voitures, à la fin, M. Miyagi va dire, OK, je t'accepte comme disciple. C'est-tu pour ça qu'il fait ça? Il fait ça parce qu'il est son disciple. C'est parce qu'il est son disciple qu'il fait les disciplines. Parce qu'il est son disciple, il fait ce que le maître, il demande. Même s'il comprend pas tout. Et donc, c'est vraiment ça l'idée que, quand je dis que être disciple, c'est une identité. Parce que le maître l'a choisi. Et ensuite, Jésus, il dit, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Un fruit qui demeure. De quoi il parle ici? C'est quoi le fruit? Afin que vous portiez du fruit. Bon, il est en train de donner l'exemple du plant de vigne, etc. Il dit, je suis la sève, vous êtes les serments. Celui qui porte pas de fruit, je le retranche. Mais il dit, je vous ai mis là pour que vous portiez du fruit. Mais c'est quoi le fruit du disciple ici? Je vous dirais, pas mal tous les commentateurs bibliques s'entendent de dire, le fruit, c'est pas nécessairement les bonnes œuvres du disciple, là, tu sais, de faire le bien, etc., de lire sa Bible, de prier. C'est pas ça les fruits ici que Jésus parle. Un fruit qui demeure. Il parle ici d'un disciple qui fait d'autres disciples. je vous ai envoyé, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. Et je crois fermement ici qu'il parle de disciple. Un disciple qui porte du fruit dans la vie d'un autre disciple. Et donc, c'est des disciples qui vont vers d'autres personnes en les appelant à être des disciples, en leur montrant qui est Jésus, en leur montrant à suivre Jésus, à imiter Jésus, en leur montrant à peinturer la clôture comme M. Miyagi y a enseigné. Puis, il dit la même chose à nous aujourd'hui qui sommes ses disciples. Et donc, pour comprendre cette identité-là de disciple, je pense qu'on a besoin, à quelque part, de retourner à la mission. Tu sais, Jésus, il parle afin que vous alliez, il nous a envoyé. Le mot envoyé, c'est le mot mission. Puis quand tu penses à la mission, ben automatiquement, tu penses à Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit ça aux disciples. Donc, quel genre de disciples que Jésus veut qu'on forme? Des disciples qui font des disciples. Et donc, ça veut dire quoi faire des disciples? Ben, moi, je crois que de façon très simple, c'est d'amener d'autres personnes à être plus comme Jésus. D'amener des personnes à suivre Jésus comme moi, je suis en train de suivre Jésus. Et donc, la mission, c'est vraiment un processus par lequel moi, en tant que disciple, je suis en train de grandir à la ressemblance de Jésus. Puis alors que je suis en train de faire ça, j'en entraîne d'autres avec moi pour leur montrer ce que moi, je suis en train d'apprendre. Fait qu'aujourd'hui, j'ai appris à lustrer, à frotter des voitures, bien, je peux l'apprendre à l'autre. J'ai appris à que Jésus, il m'aime, bien, je peux l'apprendre à un autre. Jésus nous aime. Au fur et à mesure que j'apprends, je le montre aux autres. D'inclure d'autres personnes dans ma démarche de disciple. Et donc, voilà. Et donc, je pense que le fait de vivre notre identité de disciple consiste en grande partie à faire des disciples. Vivre comme un disciple, c'est faire des disciples. Ça va de soi. Parce que le genre de disciple que Jésus veut qu'on soit, c'est un disciple qui fait des disciples. Bon, vous avez compris? OK. Maintenant, pour comprendre faire des disciples, qu'est-ce que ça veut dire, je pense que ça aiderait de voir c'est quoi un disciple mature. Si faire un disciple, c'est d'amener quelqu'un d'un point A au point B, bien, c'est important de comprendre puis de savoir c'est quoi le point B. Tu veux faire des disciples matures, faut que tu saches c'est quoi. Faut que tu aies une image dans ta tête de qu'est-ce que c'est un disciple mature. Vous voulez être une église qui forme des disciples, il faut que vous ayez en tant qu'église une image de qu'est-ce que le genre de disciple que vous voulez former. C'est logique? Comment tu peux faire cheminer quelqu'un jusqu'au point B si tu ne sais pas c'est quoi le point B? Donc, juste de se donner une image de qu'est-ce que c'est un disciple mature selon Jésus ou selon les Écritures. Mauvaise définition d'un disciple. C'est quelqu'un qui étudie, qui fait des cours, et qui fait des choses. C'est une mauvaise définition si je vous demande qu'est-ce que c'est un disciple et vous me répondez uniquement par ce qu'un disciple fait. C'est pas ça un disciple. Un disciple, il fait définitivement des choses. Ça, c'est sûr et certain. Mais l'essence d'un disciple, le disciple n'est pas défini par ce qu'il fait. La preuve, regardez les pharisiens. Les pharisiens priaient beaucoup, beaucoup plus que moi probablement. Ils connaissaient leur Bible définitivement beaucoup plus que moi. Ils connaissaient les versets bibliques. Ils étaient là à toutes les réunions. S'il fallait faire ça, ils le faisaient. Ils faisaient tout ce qu'il y avait à faire. C'était des disciples parfaits quasiment. Tu sais, quand tu regardes qu'est-ce qu'un disciple est supposé faire, eux autres, ils cochaient tout ça. Là. Ils avaient tout fait. Puis pourtant, Jésus, il te les a ramassés pas à peu près. À chaque fois que tu vois un pharisien qui est là ou presque, tu vois Jésus qui il confronte. Il les appelait des sépulcres blanchis. Il dit, vous êtes tous beaux à l'extérieur, mais pourris à l'intérieur. C'est quelque chose. Que c'est possible d'avoir toute l'activité. Je connais un gars, là, il n'était pas chrétien, OK? Il lisait sa Bible à tous les jours. Il priait. Il était à l'église. Il avait grandi dans une famille chrétienne. Il avait 24 années. Il faisait son culte personnel à tous les jours. Il essayait de parler de Jésus à ses amis. Mais lui-même, il savait qu'il n'était pas chrétien. Mais il faisait ces choses-là. Il avait tout l'extérieur. Le monde dans l'église, il ne savait pas qu'il n'était pas chrétien. Tu sais, qu'il n'avait pas été régénéré. Il n'était pas un vrai disciple de Jésus. Il était un disciple d'une religion. Et donc, qu'est-ce que c'est un disciple? Jean 8. Il dit, « Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Là, je pourrais passer tellement de temps là-dessus, là, puis je veux me discipliner parce que je veux aller dans le concret un peu. Mais je veux juste m'attarder à ces deux expressions-là. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Vous connaîtrez la vérité. Je pense que la vérité ici, c'est pas la vérité dans le sens large, je connais la vérité, tu sais, sur tel sujet. Mais c'est vraiment la vérité dans le sens de l'Évangile. La vérité de l'Évangile. La vérité sur qui est Jésus et ce qu'il a fait. La vérité sur la vie parfaite de Jésus, sur tous ses enseignements. La vérité sur sa mort parfaite à la croix, à notre place. La vérité sur sa résurrection puissante, sur toutes ses promesses. C'est la vérité de l'Évangile. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. Et dans le sens connaître, c'est juste un peu plus loin dans Jean 17, Jésus a dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, le mot connaître, on le sait, hein, c'est pas juste le terme de « je sais des choses sur lui », mais je le connais dans le sens « j'ai une relation avec lui ». La vie éternelle, c'est d'avoir une relation avec Jésus. C'est la même chose ici. Vous connaîtrez la vérité dans beaucoup plus dans le sens intellectuel. Vous avez la connaissance sur la vérité, sur l'Évangile. Mais vous allez être en train d'avoir une relation avec cette bonne nouvelle-là au quotidien, dans toutes les sphères de votre vie. C'est plus qu'une connaissance intellectuelle, c'est vraiment de devenir intime avec cette vérité-là, avec cet évangile-là. Même plus que ça, Jésus a dit dans Jean 14, juste un peu plus loin, « Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous connaissez ça? Le chemin, la vérité et la vie. Et donc, la vérité, c'est une personne. C'est le Maître. Vous connaîtrez Jésus, vous connaîtrez le Maître, vous aurez une relation intime avec lui. Et donc, ce qu'il est en train de dire, vous allez me connaître personnellement, qui je suis et tout ce que j'ai fait. Et donc, je vais devenir tellement intime avec vous, je vais tellement être vivant en vous, ça va devenir tellement une réalité, tout ce que Jésus a fait et sa résurrection, que ça va commencer à vous transformer au quotidien. Et là, ensuite, qu'est-ce qui va se produire? Il dit, la vérité vous rendra libre. Et ça va vraiment vous rendre libre. Et encore une fois, pas une série de connaissances intellectuelles où la vérité va pas vous apporter de connaître les ABC de la vie chrétienne pour réussir. Tu sais. Voici la philosophie, le code de vie que vous devez suivre. C'est vraiment pas ça ici. Mais une rencontre avec Jésus personnelle. Et je pense ici que c'est pas quelque chose de ponctuel, cette rencontre-là. Vous connaîtrez la vérité, je pense pas que c'est comme, OK, là, je l'ai connu, c'est fait, on met ça là. Tu sais, des fois, on a une vision que le salut, c'est quelque chose de vraiment ponctuel. Tu sais. J'ai été sauvé tel jour, telle date. C'est vrai qu'il y a vraiment un aspect ponctuel au salut. À quelque part, il faut se convertir à un moment donné. Il faut recevoir le pardon des péchés. Puis ça, c'est quelque chose de ponctuel. Mais comment est-ce que le salut s'opère dans notre vie fonctionnellement à tous les jours, au quotidien, dans toutes les sphères de notre vie? Si vous êtes disciple de Jésus depuis un bout de temps, vous savez que c'est pas aussi simple que ça, hein? On a besoin de déballer ce salut-là dans le quotidien, puis on réalise que le péché est encore là, puis on a encore besoin d'être libéré. Et donc, c'est vraiment un état où est-ce qu'on est en contact avec l'Évangile au quotidien. Et c'est ça qui nous transforme. Et ça nous amène à être libre. Et libre de quoi? Ben, ici, ça, il sous-entend qu'on est captif de quelque chose. Vous allez être libéré parce que vous êtes en prison, parce que vous êtes esclave, et vous allez être libéré de ça. Regardez la suite du passage, versets 33 à 35. Et là, les disciples, ils lui répondirent, « Mais nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne, je comprends pas. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre? » En vérité, Jésus répond, je vous le dis, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et donc, eux autres sont là comme, « Hey, Jésus, on est dans la famille, là. Pourquoi tu nous parles qu'on est esclaves? Pourquoi on est des fils d'Abraham? On n'est pas des esclaves. On est dans le peuple de Dieu. On est dans le bon groupe. On est dans ton clan, là. Viens pas nous dire qu'on est esclaves. » Et là, Jésus, comme il va venir leur pointer, puis il est en train comme d'enlever ce sur quoi ils s'appuient, tu sais. Ce sur quoi ils appuient toute leur justice puis toute leur sécurité. À quelque part, leur héritage, quand on est dans le bon clan, puis regarde toutes les bonnes œuvres qu'on fait, puis on a la bonne lignée. Puis Jésus est en train de dire, non, c'est pas de ce genre d'esclavage-là que je parle. Il dit, je vous parle d'un autre esclavage. Il parle de l'esclavage du péché. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Et donc, celui qui pêche, il démontre qu'il n'est pas libre. Il est encore en prison. Vous avez déjà expérimenté ça? Jésus dit, demeurez dans ma parole. Jésus nous dit, je veux que tu sois un serviteur pour tes voisins. Puis là, ton voisin, il est vraiment pas facile à aimer puis à servir. Puis là, t'es comme là, puis tu dis, hey, moi, je suis pas capable, j'ai juste pas le goût de le voir. J'arrive de travailler chez nous, puis je sais qu'il est là, puis je sors de mon char, puis je fais semblant que je l'ai pas vu, puis je rentre chez nous. Puis, on n'est pas libre bien souvent. Quand tu vis comme ça, quand il y a un commandement clair de Jésus qui dit « aime ton prochain », qui dit « témoigne de ta foi », qui dit « sois un leader dans ta famille » ou quoi que ce soit, puis que tu n'arrives pas à le vivre, à quelque part, tu es en train de démontrer dans cet aspect-là de ta vie, tu es encore esclave. Tu es comme en prison. Puis Jésus, il dit « c'est quoi qui va venir te délivrer ?» C'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui vient faire croître le disciple, qui est le moteur de la formation de disciples. Et là, je sais que, bon, il y a comme l'aspect que quand on est converti à Jésus, Jésus brise tous les liens. Il pardonne tous les péchés. On est réellement plus esclave dans les faits. On est libéré complètement de tout péché. Mais dans la réalité, on vit encore en esclave. Et donc, on a encore besoin d'être libéré de ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le disciple qui est en voie vers la maturité? Ben, alors qu'il essaye de marcher et de suivre Jésus et d'obéir à ses commandements et de grandir dans la ressemblance, ben, il y a des péchés qui vont faire surface. Des péchés entourent, là, que tu n'avais pas pris conscience jusqu'à ce que tu décides de faire telle chose. Exemple, de vivre en mission, de commencer à t'ouvrir sur ta foi, sur ton milieu de travail. Tu sais, quand tu le vis pas, tu réalises pas à quel point tu as la crainte des hommes dans le cœur. Mais quand tu commences à le vivre là, tu réalises toute la peur que tu as, tu réalises à quel point tu te soucies constamment de ce que les autres pensent, tu réalises que ça t'obsède, que quelqu'un t'aime pas, que les gens disent des choses dans ton dos, puis là, tu réalises à quel point tu es prisonnier de ça. Ça va faire surface. Alors que tu veux vivre en mission, alors que tu veux même commencer à faire des disciples, que tu vas vouloir commencer à t'investir dans la vie d'un autre, tu vas voir que, hey, mais là, s'il sait qu'est-ce qui se passe dans ma vie... Et là, tu vas réaliser que, ah non, j'ai tendance à cacher, j'ai tendance à mettre un masque, à faire semblant que tout va bien quand tout va pas bien. Puis là, tu réalises, ah non, j'étais esclave de tout ça. Ça fait surface. Et là, qu'est-ce que tu fais? Jésus dit, le disciple, c'est quoi? Mais c'est celui qui a connu l'Évangile et qui applique l'Évangile à toutes ces sphères-là dans sa vie pour être réellement libéré. Et c'est là qu'on se tourne vers le Sauveur puis qu'on découvre la vérité de l'Évangile qui nous rend libres. Ou est-ce que tu découvres, par exemple, que Jésus, l'être le plus glorieux qui soit, à cause de sa mort à la croix, te dit « je t'accepte », pas sur la base de ce que tu fais ou ce que tu fais pas, mais sur la base de ce que moi j'ai fait. Et là, tu découvres cette vérité-là pour ta vie, puis tu dis hey, « mais qu'est-ce que j'ai à perdre? La personne la plus importante qui pèse le plus dans la balance, j'ai son approbation, puis je pourrais jamais la perdre, parce que ça dépend même pas de ce que je fais ou de ce que je fais pas. » Wow, ça me libère, ça vient me nourrir, ça me donne exactement ce que je cherchais, puis ça me sort de la prison. Puis là, j'ai plus besoin de chercher l'approbation des autres, et là, je suis libre d'aller en mission, de servir, d'obéir. Je suis réellement libre de faire qu'est-ce que Jésus me demande de faire. Et on pourrait donner plusieurs exemples comme ça. Mais le fait qu'on demeure dans sa parole, c'est pas comme ça démontre que l'Évangile est en train de nous rendre libres, et pas le contraire. C'est impossible de demeurer dans sa parole. Puis je pense que Jésus le savait. Tu sais, Jésus disait, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est un petit piège là-dedans, je pense. Parce que humainement, c'est impossible de demeurer dans sa parole. Puis c'est pour ça que c'est pas en demeurant dans sa parole qu'on devient disciple. Je dis, c'est moi qui vous ai choisi. J'ai tout accompli. J'ai répondu aux standards pour être un disciple. Sa vie parfaite, sa mort à la croix, sa résurrection. Je vous choisis pour être mon disciple. Maintenant, si vous demeurez dans ma parole, vous allez être en train de démontrer que l'Évangile est actif dans votre vie et que vous êtes en train de rester attaché à l'Évangile. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je suis en train de dire? Et donc, voici comment nous, on résume à notre Église un disciple mature, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que moi, en tant que pasteur, je recherche chez les disciples? Je me dis, s'ils ont ça, ils vont être capables de s'en sortir, quel que soit le contexte, quelles que soient les situations. La première chose, c'est la maîtrise de l'Évangile. Tu sais, il y en a qui disent « je suis fluent dans deux langues ». Tu sais, t'es bilingue, t'es capable de parler autant dans une langue que dans l'autre. Il y en a qui disent « je suis bilingue ». Mais ils arrivent pour parler, puis ils pensent, tu sais, tu es francophone, puis tu vas dans une ville qui est anglophone, puis tu penses en français dans ta tête. Puis là, tu traduis tout dans ta tête au fur et à mesure, Là, il y a quelqu'un qui dit des choses en anglais, tu les traduis dans ta tête. Ça, t'es pas bilingue. Quand tu traduis constamment dans ta tête la deuxième langue, là, t'es probablement pas bilingue. Quelqu'un de vraiment bilingue, c'est qu'il pense dans la langue. C'est là que tu peux dire que vraiment, tu maîtrises cette langue-là. Et avec l'Évangile, moi, je pense que plusieurs, ça peut faire des années qu'on est disciple de Jésus, mais on n'a pas appris la langue de l'Évangile. La maîtrise de penser l'Évangile, d'appliquer les vérités de l'Évangile dans toutes les sphères de notre vie. Des fois, on a appris à faire les activités. Si je fais les activités, je me présente aux réunions, si je lis ma Bible, puis que je prie, puis que je parle de Jésus, ben, je suis correct. Mais c'est pas ça que Jésus est en train d'enseigner. Il dit, puis je pense que c'est ça la maturité d'un chrétien, c'est quelqu'un qui maîtrise l'Évangile, qu'il est capable, n'importe quelle situation dans la vie d'un autre ou dans sa propre vie, de s'arrêter puis de dire, mais comment l'Évangile s'adresse à cette situation-là? Et donc, c'est pour ça que le deuxième point, c'est d'être capable d'appliquer l'Évangile à tous les aspects de la vie. Si tu maîtrises l'Évangile, tu connais vraiment les vérités de la bonne nouvelle, de la vie de Jésus, etc. Il y a comme de la doctrine là-dedans, il y a de la connaissance, mais tu la maîtrises bien. Puis ensuite, tu es capable de prendre ces vérités-là de l'Évangile puis de les appliquer à toutes les sphères de la vie. C'est-à-dire, tu as un ami qui est là, qui a un problème au travail, qui a son collègue qui arrête pas d'être malhonnête, qui fait des coups pour être passé en avant, puis lui, il est là, il est une victime, il dit, j'ai juste le goût de lâcher mon travail, je sais pas quoi faire, etc. Je suis déprimé, je suis stressé. Il vient te voir, qu'est-ce que tu lui dis? Es-tu capable de prendre l'Évangile? Qu'est-ce que Jésus a fait? Sa mort à la croix, puis de connecter ça avec qu'est-ce qu'il est en train de vivre pour que ça le libère. Et c'est quelque chose, hein? Mais ça se travaille. Alors qu'on est ensemble, alors qu'on vit notre vie de disciple, alors qu'on est avec Jésus, que lui-même, le Saint-Esprit, met ça en lumière dans nos vies, puis qu'on est les uns avec les autres, puis qu'on se partage. C'est ça qu'on est supposé de faire. C'est ça, faire des disciples. C'est de s'amener mutuellement à vivre l'Évangile dans toutes les sphères de notre vie. Donc, la maîtrise de l'Évangile, capable de l'appliquer à toutes les sphères de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour une mère qui est à l'épicerie puis son enfant fait une crise, okay, ça arrive juste aux autres, ça. Puis là, elle a la honte de sa vie, elle sait pas quoi faire, elle s'est fâchée. Là, elle retourne chez eux, puis elle a crié après son enfant, puis elle a fait des menaces, puis elle suit pas ses menaces. Puis là, elle arrive, puis là, le soir, elle était complètement impatiente, puis elle était à la fin de sa journée, puis elle dit que je suis donc une mauvaise mère. Comment l'Évangile s'applique à ça? Donc, je vais prendre les minutes qui nous restent pour juste répondre un petit peu concrètement. Comment vivre ça? Comment faire? Comment faire ça concrètement? Jeff Van Der Stelt, quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là, un modèle pour moi, je mange ses écrits, enseigné quelque chose, puis je sais même pas où est-ce que j'ai pris ça, sincèrement, mais ça m'est resté. Lui, il enseigne comme 4 questions de diagnostic. Et pour même quand tu lis ta Bible personnellement, quand tu es avec quelqu'un d'autre, de faire la formation disciple, de voir la croissance, d'appliquer l'Évangile avec 4 questions de diagnostic. La première, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu? Donc, ça fait référence à ses attributs, etc. Il est notre Père, Dieu est amour, Dieu est notre sauveur, etc. Il est grand, il est glorieux, il est gracieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Dieu est amour, il nous a aimés en donnant son Fils. Dieu est notre Père, donc il a fait de nous ses enfants, etc. Donc, en lien avec qui il est, étant donné que Dieu est un Père, voici qu'est-ce qu'il fait en tant que Père. Étant donné que Dieu est un missionnaire, voici qu'est-ce qu'il fait en tant que missionnaire, etc. En passant, l'apogée de qui Dieu est et de qu'est-ce que Dieu a fait se retrouve toujours dans la personne de Jésus. Il est l'image visible du Dieu invisible. Tu sais, on retrouve l'apogée de tout ça dans la personne de Jésus. Il est la révélation ultime de Dieu et de son amour, etc. Donc, en regardant Jésus. Donc, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous sommes? Donc, Dieu est un Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils mourir à la croix. Qu'est-ce que ça fait de nous? Il nous a adoptés dans sa famille. On est des enfants. Tous les disciples sont des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? 4e question, qu'est-ce qu'on fait? Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous sommes à cause de ce qu'il a fait? Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Aller à l'église. Parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes une famille, puis il y a une réunion de famille le dimanche, soyez là. N'abandonnez pas vos réunions. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait généralement? On travaille à l'envers. OK? On commence par le numéro 4. Qu'est-ce qu'on est supposé faire? Qu'est-ce que la Bible nous dit qu'on est supposé faire? La Bible dit, n'abandonnez pas vos réunions. Oh, OK, faut que j'aille à l'église. Puis là, quand j'y vais pas, comment je me sens? Je me sens, je suis pas un bon enfant de Dieu, tu sais. Puis probablement que l'église, ils doivent être bien déçus de moi. Puis, je sens pas que Dieu, il m'aime tant que ça. Puis, je me demande si vraiment je suis son enfant. Puis, et là, on part du 4, on évalue notre performance, puis là, on remonte. On sent que, j'ai de la misère à parler de Jésus, je dois pas être un témoin, moi, j'ai de la misère à former des disciples, je dois pas être un formateur de disciples, j'ai de la misère à servir, je dois pas être un serviteur. Et on remonte comme ça. Puis finalement, on tord la vision de qui est Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se requalifier. Donc, comment je fais pour me ressentir un enfant de Dieu? Faut que je recommence à aller à l'église. On travaille de l'activité pour se construire une identité. Au lieu de travailler dans l'autre sens, de commencer avec qui Dieu est, ça commence toujours par ça. Dieu est un père. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils. Et qu'est-ce que ça fait de nous? Il nous a adoptés. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Rien. Sur la base de ce que Jésus a fait, je suis un enfant de Dieu. Et donc, ça fait que tous les autres disciples sont mes frères et sœurs, que je le sente ou que je le sente pas. Des fois, les gens ils viennent me dire, je me sens pas à ma place dans l'église, je pense que je vais arrêter d'y aller, je sens que j'ai pas ma place. Pourquoi? Ah, ben tu sais, Puis finalement, la réponse, ça se trouve tout dans le numéro 4. C'est jamais, je crois pas que Dieu est un père, je crois pas que Jésus est mort à la croix pour moi. C'est jamais ça qui répond. Mais dans la réalité, c'est ça. C'est parce que pour lui, un enfant de Dieu, je vais être un enfant si je sens que j'ai ma place dans l'Église. Je vais faire partie de la famille si je sens que l'Église m'accepte. Et donc, nos croyances précèdent toujours nos actions. Nos croyances sur qui est Dieu. Si tu crois que Dieu est vraiment ton Père et qu'il t'a vraiment adopté, tu vas naturellement, si tu le crois profondément, tu vas naturellement te dire « Ma place, c'est d'être avec mes frères et sœurs. » Tu vas naturellement vouloir aimer les frères et sœurs. Tu vas naturellement rechercher la communion. Si tu crois profondément que tu es un envoyé, Jésus dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Si tu crois que tu es un envoyé dans toutes à chaque seconde de ta vie, ben à chaque fois que tu es en train de t'en aller quelque part, tu vas te dire « Je suis un envoyé. » Donc, tu vas vivre comme un envoyé. Et ainsi de suite. De l'identité jusqu'à l'action. Et donc, ce que tu fais me dit ce que tu crois. Tu es avec quelqu'un d'autre qui a de la misère à vivre un principe biblique. Exemple, je lutte dernièrement avec tel péché dans ma vie. Okay? J'ai de la misère à lire ma Bible. Je n'ai pas lu ma Bible toute la semaine. Ou ça fait un mois. Bon. Ah ben là, tu devrais lire plus ta Bible, tu sais, parce que la parole de Dieu dit un chrétien, ça lit la Bible. Ça, c'est l'action. Mais la formation de disciples, selon Jésus, c'est d'aller pas à l'action, mais d'aller à l'identité de la personne, de former cette identité-là dans le cœur de la personne avec l'Évangile pour qu'ensuite ça transforme, transformer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Toute mauvaise action qu'on peut faire est connectée à une chose qu'on ne croit pas dans l'Évangile. À quelque part, si j'ai pas le goût de lire ma Bible, si je crois pas que Dieu est intéressant, c'est que je crois pas que je crois d'autres choses. Je crois que ça va être plus valorisant pour moi de faire d'autres choses. Ou je crois que Dieu, il y a des standards tellement élevés et je me sens indigne. Puis ça fait tellement de pression sur mes épaules que je me dis, si je prie, il va falloir que je prie pendant 2 heures. J'ai tellement de rattrapage à faire. Puis là, ça me pèse sur les épaules parce que j'ai comme une grosse montagne à monter. Puis là, ça me tue la motivation. Puis je remets ça à demain, tu sais. J'ai pas assez de temps aujourd'hui pour faire ça. Parce qu'à quelque part, j'ai cru que Dieu s'attendait que je me qualifie pour être accepté dans sa présence. Comprenez? Tandis que si j'arrive devant Dieu et je me dis, hey, merci Seigneur, j'ai pas besoin de rien faire. J'ai pas besoin de rien faire pour que tu m'aimes. Tu m'as aimé le premier. J'ai pas besoin de rien faire pour que tu meurs à la croix pour moi puis que tu me pardonnes mes péchés. Tu l'as fait pour moi. Là, aujourd'hui, là, je me sens vraiment comme une merde. Je me sens vraiment comme pas un bon chrétien. Je me sens vraiment comme tu dois tellement être déçu de moi. Ça, c'est comment je me sens. Mais là, je regarde à qui tu es, puis à ce que tu as fait, puis à qui tu dis que je suis. Et là, qu'est-ce que ça vient changer? Je tombe en amour avec ce Dieu-là. Je tombe en amour avec ce Dieu-là, puis qu'est-ce que j'ai le goût de faire? J'ai le goût de lire ma Bible. J'ai le goût de prier. J'ai le goût de le connaître plus, parce qu'un Dieu de même, c'est intéressant. C'est attirant. Malheureusement, le temps fil. Mais je vais terminer, OK? Rapidement. Là, je saute plein de choses intéressantes, mais c'est pas grave. OK, juste bien pratiquement, là. Quelques méthodes pratiques pour vivre ça dans votre quotidien. J'ai sauté la période qui dit qu'un disciple, c'est à tous les jours, là, mais c'est correct. Inclure des personnes, inclure quelques personnes spécifiques dans ta vie personnelle, dans ton quotidien. Tu veux participer à former des disciples? Très, très simple. Regarde ton horaire, regarde ton agenda, puis regarde comment tu peux faire de l'espace pour d'autres personnes se joignent à toi. Invite-les chez vous à manger, fais des rencontres de ce que tu voudras, mais invite-les dans ta vie, fais rentrer des gens dans ta vie, quelques personnes spécifiques. Ça va créer des occasions pour se connaître, puis là, partager ensuite. Qu'est-ce que tu es en train de découvrir de Jésus, etc. Mais la deuxième chose, c'est partage ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Partage comment toi, tu es en train de découvrir cet évangile-là au quotidien. C'est quoi la délivrance? Pas que, il y a 30 ans, j'ai rencontré Jésus, là, mais cette semaine, voici, je vivais telle chose, j'avais pas le goût de lire ma Bible, puis là, j'ai réalisé que j'étais encore tombé dans cette idée-là qu'il faut que je performe pour que Dieu m'aime. Puis, waouh, tu sais, merci qu'il m'a sorti de là, puis je voulais te le partager. Partage tes luttes autant que tes victoires. Laisse-le rentrer dans ta vie. Et trois, mets l'accent sur l'intérieur. Donc, de travailler de l'incrédulité à la foi, pas de l'action. Qu'est-ce que tu es en train de pas faire, là, puis que tu devrais être en train de faire? Mais si tu fais pas ces choses-là, pourquoi? Qu'est-ce que tu n'es pas en train de croire dans l'Évangile? Puis parlons de ça ensemble. Puis comment, moi, je vis ça? Et juste de commencer à vivre ça, ça va révéler beaucoup de choses dans ta propre vie, parce qu'on est habitué à se cacher, puis à vivre individualiste, puis tu n'auras pas le goût de sortir de ton salon, puis tu n'auras pas le goût de changer des choses dans ton horaire, puis tu vois, il y a un paquet de péchés qui va sortir. Juste d'essayer de faire rentrer des gens dans ta vie, là, c'est déjà comme, pour la plupart, un gros pas. La zone de confort relationnel, etc., ça fait ressortir toutes sortes d'idoles, la sécurité, l'approbation des autres. Mais ça va être des occasions d'appliquer l'Évangile. Et alors que tu es en train de vivre en mission, de vouloir former des disciples, ben tu vas grandir comme disciple. Puis tu vas avoir, avec ce que Dieu te fait grandir, tu vas avoir plein de matériel à partager aux autres. Avec ce que Dieu est en train de te faire grandir à ce moment-là. Puis quatre, vis-le en communauté. Nous, on a le concept des fight clubs. Il y en a qui appellent ça les triades, les groupes de croissance, etc. À notre église, comment on le vit, à la semaine, là, on prend le passage, c'est Dieu, il dit, Paul, il dit, je traite durement mon corps, puis je combats le combat, tu sais, contre le péché. Et donc, c'est cette idée-là qu'on veut, combattre le péché qui est en nous. Et on a besoin de vivre ça en communauté, parce que c'est toujours comme ça que la vie chrétienne se vit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre un ou deux autres personnes du même sexe avec qui tu as le goût de passer du temps. Puis, on se rassemble ensemble, puis juste pour lutter, pour qu'est-ce que je suis en train de pas croire dans ma vie présentement? C'est quoi les problèmes que je vis? C'est quoi les péchés racines? On confesse et on essaye d'appliquer l'Évangile à ça, puis de tourner nos yeux vers la croix, puis de confesser, de se repentir, de croire en Jésus. C'est pas plus compliqué que ça. On utilise la Bible comme seul outil. On lit la Bible ensemble. Puis, on essaie de voir qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça. Est-ce que ça révèle des péchés? On confesse. Mais à force de faire ça, tout le monde est capable de faire ça, là, ouvrir la Bible puis lire un passage ensemble. C'est-tu accessible? Tu sais, je parlais tantôt d'info la formation de disciples. C'est pas accessible, mais ça, là, je trouve ça hyper accessible. Tout le monde est capable d'ouvrir sa Bible puis lire un passage ensemble. Puis de dire, voici mes péchés. Parce que, quel que soit ton niveau, là, on a tous des péchés à confesser. Donc, voici que je suis en train de lutter. Puis comment l'Évangile s'applique à ça? Et donc, c'est là qu'on fait face à nos péchés, aux mensonges dans notre vie, puis qu'on grandit. Mon temps est terminé. ma prière, je sais que vous êtes dans cette série-là sur aller au-delà des obstacles, puis devenir une église ou être de plus en plus une église qui fait des disciples qui font des disciples. Donc, laissez-moi juste conclure en priant. Seigneur, je suis encore émerveillé de voir à quel point tout dépend de toi et tellement reconnaissant que tu t'attends pas de nous qu'on performe, qu'on cogne des coups de circuit dans la vie chrétienne. Seigneur, merci que ça dépend pas de notre performance, mais de ta performance, de ce que toi, tu es venu accomplir. Tu as été le disciple qui faisait des disciples parfaitement, que nous, on n'est pas capable d'être. Et merci qu'on peut juste aller avec toi là où est-ce qu'on est, avec tous nos manquements. Peut-être pour certains, ils se disent, moi, je sens que je participe zéro à la formation de disciples. Je m'implique zéro dans la vie de d'autres personnes. Peut-être que d'autres l'ont déjà fait, le font plus. Seigneur, tu connais les cœurs, chacun des disciples, où est-ce qu'ils sont. Mais tu nous appelles chacun à juste se tourner vers toi, à venir chercher ton pardon. Seigneur, donne à cette Église de vraiment grandir. Pas pour se qualifier, pas pour être une Église meilleure que les autres, mais pour que tu puisses être vivant au milieu d'eux. Et Seigneur, que des nouveaux disciples puissent être formés, des disciples qui te suivent, des disciples qui poursuivent ta mission, qui n'ont pas juste ton caractère, mais qui ont aussi tes priorités. Seigneur, merci que tu as tout accompli à la croix. On veut maintenant juste te louer et te célébrer. Amen.